I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Moi, je suis parisienne et j'ai eu du mal à trouver sur Strasbourg des gens pour me parler de sexualité un peu alternative. Est-ce que c'est une scène qui existe beaucoup dans la région ou est-ce que vous êtes un peu les seuls et c'est pour ça qu'il n'y a que vous que j'ai trouvé ?
Il n'y a pas que nous, il y a des choses, mais après, ça dépend ce que tu cherches. Je pense que tu peux trouver beaucoup de scènes d'activités libertines, mais tu vois, dans du privé. Donc, il faut aller sur du Club Est, tu vois, ce genre de trucs, de petites annonces. Après, il faut dire que Strasbourg est peut-être un peu petit comme ville. Il n'y a quand même pas... Enfin voilà, tu vois, ça passe pas pour être une ville hyper festive et underground.
Pour l'instant, j'organise mon tour de France du cul en fonction des endroits où on m'invite. Là, c'était le QEJE, une école de journalisme de Strasbourg qui m'a proposé de venir participer à une table ronde devant des étudiants. J'ai profité de ma venue dans l'Est pour chercher des gens qui pouvaient me parler de sexualité. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Diane Ottawa et Olivier Lelon, un couple d'artistes qui produit ensemble des photos et œuvres plastiques sous le nom de Doll Fiction. Je n'ai pas tout de suite enregistré, ils m'ont tout d'abord donné rendez-vous dans un bar du centre de la ville, puis m'ont proposé de visiter avec eux Eden, une galerie d'art qui propose de nombreuses œuvres à caractère sexuel.
Donc, c'est une exposition sur le thème de l'érotisme. Alors c'est Never Ending Aging, c'est un peu, tu sais, le moment où tu retiens l'éjaculation. Et là, c'est la deuxième édition.
Et vous y allez souvent ?
Bon, on y va souvent parce que c'est devenu des amis, et on fait partie, si tu veux, des artistes de la galerie. On y a exposé l'année dernière. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que quand on est au centre-ville, on va pas se faire un petit coucou. Quoi.
Bonjour.
Ouais, tu vois ça aussi, enfin, franchement, c'est des fresques magnifiques. Hein. C'est vraiment l'horreur ciselée.
Ça demande quand même une certaine imagination. Hein.
Alors apparemment, il fait ça comme des dessins automatiques. Hein. C'est-à-dire qu'il dessine au stylo bi et voilà, c'est scène après scène, comme ça.
Donc automatiquement, il voit des mecs pendus par les pieds, là.
Oui. Avec des couteaux plantés, mais il bande quand même. Hein.
Voilà. Alors il y a un mec, est-ce qu'il lui manque un morceau de bite ou est-ce qu'il a juste une petite bite ?
C'est un micro-pénis à mon avis.
Oui, ça c'est plus classique.
Ben, en fait, il y a une espèce de, je sais pas comment dire, de topologie comme ça du féminisme où voilà, tatouage, poils sous les bras, poils entre les cuisses. Et bon, visiblement, elle nous fait comprendre qu'elle domine hein, un certain nombre de personnes qui ont l'air d'aimer ça. En tout cas, il ne serait peut-être pas là si ce n'était pas le cas.
Bon, je pense que vous avez compris le délire de cette galerie. Alors après cette visite, Diane et Olivier ont eu la gentillesse de m'inviter chez eux pour me présenter leur atelier et leurs œuvres.
Là, tu rentres chez nous.
Mais là, c'est quoi ce dessin, en fait ?
Alors, en fait, c'est une série que je prépare. Qui est un peu une série sur des martyrs, mais qui sont très BDSM, si tu veux. Donc, il y aura des gens bandés, des gens avec des masques en latex, enfin, tous les codes un peu fétiches, mais qui vont être mélangés à des gravures.
Après... Là, concrètement, c'est une sorte de personnage en combinaison latex qui laisse apparaître son sexe.
Alors, tu vois que le sexe est un peu trouble déjà, là. Il est un petit minou de jeune femme, mais en même temps, il a une poitrine un peu masculine. En fait, c'est pas du latex, c'est une tenue de grand brûlé.
Pour ma famille, en tout cas, déjà, j'étais un monstre, parce que ma mère me disait souvent, comment j'ai fait pour créer un monstre pareil, parce que j'étais pas, déjà pas très sociable, je parle pas beaucoup. Et on va dire que les choses que j'aimais, ça pouvait parfois faire peur à des personnes pas normales entre guillemets, mais voilà, quand on aime tout ce qui est lié à la mort, au sang, à des choses dérangeantes, pour certaines personnes ça, c'est compliqué à gérer.
Le problème, c'est le décalage. C'est-à-dire qu'on est gamin et assez longtemps, et même ça a même duré en école d'art, on est un peu seul. C'est-à-dire, on s'encombre, on peut peut-être pas en parler parce que j'en ai marre de passer pour le terrain de service. Donc, on est un peu isolé. Ça, c'est un problème.
Parce que lui, comme moi, c'était compliqué au niveau de nos attraits, tout ce qu'on aime bien, qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, c'est un peu compliqué. Et du coup, en étant ensemble, tout était plus simple. Et au fur et à mesure, les choses sont devenues de plus en plus sérieuses. Donc on a lâché chacun nos vies d'avant pour être ensemble. Et puis on a créé notre couple d'artistes. Et maintenant, tout va très bien.
Notre relation nous inspire des œuvres. Elle nous questionne sur qu'est-ce que c'est que le sexe, qu'est-ce que c'est que des sexes hommes-femmes, qu'est-ce que c'est que leur rapport. Donc l'énergie de l'un nourrit l'énergie de l'autre, et comme on est assez fusionnel, en fait ça marche assez bien.
Ouais, comment ça s'est mis en place? Déjà parce que Olivier est photographe déjà de base, donc il a toujours eu besoin de modèles, et au fur et à mesure je suis devenue son modèle principal, donc ce qui est plutôt sympa. Et maintenant, justement, avant c'était ses idées à lui qu'on mettait en image, maintenant c'est nos idées à tous les deux qu'on assemble, on les transforme, on mélange. Moi, je suis plutôt dans le dessin. Moi, je dessine beaucoup. Et du coup, on mélange nos différentes pratiques en tant qu'artiste plasticien. On mélange de la photo, de la sculpture, du dessin. Et on met pas mal en scène notre histoire d'amour. Donc c'est assez agréable de travailler à deux.
Et finalement, qu'est-ce que toutes ces créations t'apportent ?
Je saurais pas dire. Ça me fait du bien parce que... comme j'ai beaucoup de mal avec les fusions de vie, entre guillemets, les gens, la vie, le bruit, tout ça, ça me fatigue beaucoup et c'est compliqué à vivre pour moi. J'aime bien dessiner justement des choses mortes et calmes. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'apaisant. Ça m'apaise.
Alors voilà. Vous l'avez trouvé où, ce poulpe ?
Eh ben, dans un supermarché espagnol, juste à côté.
J'avoue que rien que cette photo de poulpe, elle me met pas à l'aise. Mais moi, j'aime pas les poulpes. Ah, mais les gros. Mais là, je l'imagine me toucher.
Oh, ouais, là il là. Est mort, hein. Il peut rien.
Mais alors là, est-ce que c'est la peau qui se désintègre ou
oui.
c'est
Oui. Ah, parce qu'il est cuit en fait.
Ah. Ok.
Et c'est pour ça qu'il était dégueu en fait, parce qu'il était rigide, comme du plastique.
Tu peux la mettre. Ouais. Oh mon Dieu, ça sent vraiment la solitude, cette photo avec ta tentacule
ça
et tes yeux.
Détresse, hein, c'est...
Non, et tes yeux qui disent juste pourquoi. Non, mais en fait, si on regarde juste, si on coupe les yeux, ça va. Hein. Si on coupe les yeux, la photo, elle est jolie, mais bon, t'as tes yeux, malheureusement.
Ah non, mais c'est une cata. Hein. Je te dis, on n'a pas réussi à en avoir une bien parce que on dirait que je vais pleurer. Quoi.
Mais aussi, est-ce que t'avais le soleil dans les yeux?
Pas du tout.
Ok. Est-ce que tu...
Non.
Après cette rencontre, j'ai écouté le témoignage de Virginie, 24 ans, qui habite la région depuis quelques années. Elle a grandi dans le sud de la France et également sur un bateau.
Le premier émoi, je devais avoir 11 ans, c'était sur le bateau. C'était comme d'habitude quand on vit sur un bateau, les amis sont éphémères, vraiment très éphémères. Et je crois que c'était... une jeune fille qui avait peut-être 2 à 3 ans de moins que moi. Et on passait souvent nos soirées ensemble. On dormait sur le bateau de l'une ou de l'autre. Ça rapprochait en fait ce genre de vécu et de passif. Et une fois, elle m'avait montré comment on pouvait jouer avec un coussin toute seule. Et avec le recul, et des années plus tard, je me suis rendu compte qu'on avait passé la soirée à se masturber l'une à côté de l'autre et à savoir comment faire. Et ce souvenir me fait toujours rire de m'en être rendu compte en racontant ça à une amie il y a quelques années. C'était c'est vraiment très drôle.
Et est-ce qu'après, t'as commencé à te masturber ?
Non, et en plus, c'est vraiment pas mon délire, même maintenant, à 24 ans. C'est toujours pas ma cam. Comme quoi, son cours n'a pas marché.
Est-ce que tes parents t'avaient parlé de relations, de consentement ?
Non, mes parents avaient, je crois, pas fait ce travail-là. Ou alors, j'en ai vraiment plus souvenir et je m'en excuse si c'est le cas. Oui, je pense que chacun devait penser que c'était l'autre. J'ai eu des parents séparés depuis toujours, donc je pensais que chacun a dû se dire que c'était l'autre qui l'avait fait. Et mes sœurs ont peut-être dû prendre le relais, mais... Je sais pas, j'ai dû avoir la prétention de dire oui oui et de partir. Je ne sais pas, je pense, j'ai pas l'impression. Mais je suis pas sûre. ouais, non, j'ai vraiment toujours su que j'étais lesbienne. Depuis mes 12 ans, je pense. J'ai vraiment, vraiment toujours su. Et c'était drôle parce que quand je me suis dit, va peut-être falloir que j'en parle aux parents, sans penser à l'éventualité de faire un coming out, je pense que je voulais... J'avais pas cette notion-là. Je savais que c'était une épreuve difficile à passer pour les autres. Je pense que je m'en foutais de ma part, dans le sens où c'était mon choix et j'avais pas besoin de leur autorisation. Je le disais, si c'est tout, si je me faisais pas accepter. J'étais même pas une notion, parce que je m'en foutais, vraiment, je m'en foutais. Et donc, du coup, quand je leur ai annoncé pour mes 14 ans, je pense, ma mère m'a dit « Oui, oui, ça va te passer. » J'en ris encore. Et mon père... pour une fois, avait l'attitude très complaisante de dire oui, d'accord, est-ce que t'es amoureuse de quelqu'un, vraiment faire le rôle, parce que vraiment le rôle que j'attendais de lui, entre guillemets, de savoir qui c'était, pourquoi c'était, est-ce que j'avais peur et des choses comme ça, ce qui est vraiment chouette. Et quand ma belle-mère l'a appris, elle m'a dit non, mais de toute façon, je l'ai toujours su, t'as jamais voulu porter de robe, t'étais toujours à poil à te balader, non, j'ai toujours su. Ça m'a fait doucement rire, ne comprenant pas le rapport. Elle me fait « Non, et puis quand tu regardais des dessins animés, tu préférais toujours les personnages féminins et tout. » Je suis en mode « Oui, d'accord, si tu le dis. » C'est mignon d'essayer de trouver une corrélation, mais je lui ai expliqué plus tard que c'était inné et pas acquis. Et je pense que la notion même lui échappe et on s'en fout bien, mais voilà, c'était drôle. Et j'avais toujours rêvé d'amour, c'est toujours le cas. Donc, et je suis tombée sur quelqu'un. Et à partir de là, ça allait mieux. C'était le 1er juin. Je venais de refaire ma couleur rouge flamboyante. J'en étais fière. On avait une soirée pour fêter la fin du bac de français. Et je croise cette nana qui me regarde et me fait « Ah, oh, t'es chine dans Nana !» J'étais en mode « Ouais, ouais, sympa de m'avoir connue. » Elle me fait « Ah, oh, t'es cool et tout. » J'étais en mode « Merci, merci. »
Ce soir-là, Virginie est habillée comme Chine, un personnage du manga nommé Nana.
Et j'ai passé la soirée sympathisant avec d'autres nanas. Et on a passé comme les meilleures nuits, je trouve, passé la nuit à papoter pendant des heures et des heures à parler philosophie sous les étoiles. Ce cliché monumental qui a fait mon adolescence et que j'apprécie toujours autant. Et le lendemain matin, on est tous repartis de cette soirée-là. Et à la fin de l'été, je suis tombée amoureuse de Claire. Et on s'est mis ensemble. Et puis voilà comment a commencé la première... Avec ma première copine, les premiers mois, c'était les émois. Et pourtant, les difficultés d'une tierce personne qui était entre nous, qui est pourtant une amie tellement chère. Mais oui, les débuts ont mal commencé, la fin aussi. Enfin, c'était une histoire lourde sous beaucoup d'aspects, mais que j'ai tellement aimée. Que j'ai tellement aimée et ce dont je suis fière maintenant. Donc, c'était de réapprendre qui j'étais, de voir que j'étais plus la seule à avoir de l'expérience, d'autant plus qu'avec les femmes, je n'en avais aucune. Et puis, c'était aussi un parallèle entre ma vie personnelle avec ma vie parentale et cette fille et sa famille à elle qui m'avait adoptée et tout ce dont j'avais besoin, un refuge. Dans tous les sens du terme.
Et sexuellement, ça se passait comment ?
La question qui fâche, le côté sexuel de... Eh bien, malheureusement pour elle, comme j'avais des problèmes et que je ne savais pas mettre de mots dessus, ma sexualité était vraiment pas terrible. Je pense qu'à un moment donné, je ne la laissais plus me toucher parce qu'il y avait une incompréhension avec moi et mon corps. Et je pense que ça a complètement faussé notre relation. Ma sexualité est vraiment, vraiment dentelée. Parce que j'ai été violée à multiples reprises. Et je m'en veux, et j'ai pas fait les choses dans l'ordre, mais voilà. S'il y avait eu que ça. La raison pour laquelle ça s'est arrêté, je pense qu'on suivait des chemins trop différents. C'est surtout que ça devenait vraiment très complexe. Je pense que j'ai une réelle capacité à faire tout capoter avec les femmes. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a vraiment pas loupé. Et puis, elle est partie dans sa vie et moi, je suis restée à Strasbourg.
Et c'est quoi cette capacité à tout faire foirer ?
Elle vient de ce que j'attends de moi, de ce que j'essaie de ne pas attendre des autres, parce que on est censé s'apporter ça tout seul, de manière sexuelle, sentimentale, affective, tout le package pour moi. Et que dire ? Que dire à quel point je suis vraiment nulle ? Non, je pense que j'arrive pas à me rendre compte des choses en temps et en heure. Et ce décalage-là, il fausse la relation. Tu sais, c'est comme si tu viens de passer le meilleur anniversaire de ta vie, t'as tous tes copains qui sont là, et tout le monde part, et tu te dis « Ouais, c'était chouette comme anniversaire ». Et puis des années plus tard, tu ne te souviens que de cette soirée, de toute ton année, tu te souviens que de cette soirée-là. Tu disais « C'était la plus belle soirée, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était mes 17 ans, c'était... » voilà. Et ben, je pense que ça me fait exactement ça dans les relations. Je vois au moment voulu que le négatif, en essayant à tout prix de m'en sortir. Et après, avec le recul, je me dis que c'était quand même une sacrée bonne période de ma vie. Et puis, en attendant, je me bats avec moi-même pour essayer de la rendre... pour me convaincre, en fait. Me dire que c'est maintenant l'instant T, que c'est maintenant que je dois vivre, que tout est beau, que voilà. Ma relation avec la toute première, ça a été 2 ans et demi. 2 ans et demi et 2 ans de déni. Vraiment 2 ans... de rupture, vraiment pure et dure, à pas sortir la tête de l'eau, vraiment. Même maintenant, je pense que je ne sais pas, toujours pas pourquoi ça a été si difficile. On va reprendre la phrase évidente de « c'est pas moi qui ai pris la décision », mais la réalité c'était que j'avais toujours cette impression de me battre et que les choses n'étaient pas finies pour moi parce que j'avais pas fini de me battre. Sans vouloir accepter que pour elle c'était fini. Il y a des fois où se battre dans le vent ça sert à rien. Elle avait raison. Et parce que je suis quelqu'un de très mélancolique, vraiment très mélancolique. Et j'adore ça, je me noie dedans et c'est tellement mieux avant, comme disaient nos grands-parents. Et c'est. J'arrive à voir toute beauté de la moindre souffrance que j'ai eue, donc c'était beau, toute cette aventure-là. Et j'ai pas voulu en démordre, et puis ma vie d'étudiante à Strasbourg était difficile, donc il était plus facile de rester dans ma souffrance, tout simplement. Et puis, un jour, quelqu'un m'a dit « ça suffit ». Et sur une anecdote un peu bête, il m'a dit « tiens, envoie-moi une photo de toi ». Je te demande pardon, c'est n'importe quoi. Il me fait « si, vas-y, envoie-moi, j'ai parlé de toi à une copine ». Je te demande « ça va, je suis grande, donne-moi son numéro, je me démerde ». Et voilà qui est arrivé dans ma vie, la deuxième aventure de ma vie. Et du coup, cette aventure-là, elle a commencé 2 jours avant Noël, je crois. Et j'étais retournée à Nice chez mes parents. J'étais même partie à la montagne avec des amis. Et on voulait faire Nouvel An en grande pompe, dans un chalet. Du coup, j'ai papoté avec elle pendant 2 semaines. Et ça allait trop vite. je crois qu'on a réalisé le cliché de la lesbienne qui se marie en 2 jours. c'était vraiment ça. D'ailleurs, on est rentré, je suis rentrée sur Strasbourg, quiproquo d'amis. En définitive, on a passé la soirée. Enfin, elle est venue me récupérer, mais du coup, j'avais d'autres personnes avec moi. On a passé la soirée ensemble et en fait, on s'est rendu compte qu'on était déjà ensemble alors qu'on s'était jamais vus. Enfin, c'était un peu bizarre, mais voilà, ça a commencé comme ça. Et puis c'est difficile pour moi parce que c'était toujours pas la bonne période, que j'étais toujours dans le déni de la première histoire, que je pense que j'étais pas prête à vivre autre chose. Et puis elle allait tellement vite pour moi et elle était tellement, tellement plus tout en fait, que ça s'est passé en quelques mois et je me suis dit il faut que j'arrête parce que j'ai l'impression qu'elle éprouve des choses à mon égard que moi non. Et du coup j'ai pris la décision de rompre avec elle. Je crois que c'était la pire après-midi de ma vie, ça a duré des heures. Je crois que je ne sais vraiment pas rompre avec les gens. C'était vraiment effroyable comme discussion, la pauvre. Et on s'est plus reparlé, donc je pense que c'était en avril. On s'est plus reparlé et puis il y a eu les attentats de Nice, bah pour le 14 juillet. Elle m'a envoyé un message le 15, en me demandant si tout allait bien, parce que bah, j'avais toute ma famille à Nice, donc elle voulait savoir si tout allait bien. Et on a commencé à papoter, On s'est rendu compte qu'elle n'avait pas fêté la fin de ses examens, qu'elle partait dans un mois et demi faire sa licence 3 au Canada, et que je lui ai dit, bah voilà, c'est l'occasion de se voir, de boire un coup et tout. C'était folklore comme journée. Beaucoup de choses ont été dites dans ce bar pour boire cette bière. Beaucoup de baisers échangés, surtout. Et puis, une anecdote sympa qui sera peut-être pour une prochaine fois, parce que la pauvre, ça va l'humilier. Et ça a fini en anti-soirée sur le balcon, à lui dire à quel point le gars avec qui elle était en ce moment n'était vraiment pas fait pour elle, mais que moi non plus, j'étais vraiment pas faite pour elle, mais lui non plus. Et puis, on a repassé l'été ensemble. Elle a quitté ce garçon-là et on a passé l'été ensemble. Et elle est partie au Canada. Et puis, on a commencé et on a vraiment fini de devenir amis, d'apprendre à se connaître. C'était pas évident pour elle, comme pour elle, parce que je lui demandais du temps. Et elle qui le grille tellement rapidement, c'était peut-être difficile pour elle. Et puis, je crois que c'était en janvier ou février, elle a fait une fête soirée pro-JX. Et tellement eu peur en rentrant quand elle m'a annoncé qu'elle avait embrassé quelqu'un et que c'était vraiment super et tout. Je lui ai demandé tout de suite, sors avec moi, s'il te plaît, je me vois la face, ça fait des mois qu'on se reconquiert et s'il te plaît... remettons-nous ensemble, je veux dire je t'aime et voilà. Et elle m'a dit oui. Et on est reparti dans une vraie aventure ce coup-ci, en espérant que les bases étaient solides. Et elle est rentrée en mai, on est parti en vacances et la vie a continué. La vie a continué et avec beaucoup de difficultés, beaucoup de péripéties, parce que j'avais pris la décision de pas tout de suite habiter avec elle à son retour du Canada. Ça n'a pas été ma plus grande décision, on va pas se mentir. Et puis on a sauté le pas, depuis août on habite ensemble, et puis maintenant c'est le flou, parce que les vies amoureuses c'est jamais évident, donc maintenant c'est juste difficile, parce que j'ai l'impression d'avoir une fois de plus merdé, et que c'était mon postulat du départ, je suis pas douée avec les filles.
T'as merdé où ?
On va plutôt dire qu'est-ce que je n'ai pas merdé. Des mots blessants parce que j'étais quelqu'un d'apeuré. D'essayer de l'aider alors que c'était pas la bonne méthode. J'étais vraiment une sale gosse. Vraiment, vraiment une sale gosse. J'ai mal géré des points où elle avait peur en essayant de compenser avec tout le monde pour être bien avec tout le monde. Et puis, j'ai pas dû faire la part des choses tout le temps. Et puis, de toute façon, les erreurs, elles sont partagées. Et puis, c'était pas évident pour nous de, moi, gérer ma vie de jeune salariée et d'elle étudiante à fond dans ses études. Et d'ailleurs, quelque chose que j'avais du mal à comprendre au début, comment une personne pouvait autant être accrochée à ses études. Pour moi, c'était que les clichés que les professeurs essayaient de nous faire apprendre. Et en fait, non, je suis tombée sur elle, qui n'avait que la carrière en tête, et Dieu merci. Et voilà, il y a beaucoup de points où on s'est mal comprise. Ça a été une guerre de compromis et apparemment j'ai perdu.
Tu le vois comment le futur ?
Le futur là, honnêtement, sans elle c'est difficile. Et je sais pas, c'est une question très très difficile.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors ?
Son bonheur à elle.
Oh. J'ai envie d'avoir un câlin. Je
suis désolée. C'est pas grave. Yaya.
Pour retrouver le travail du couple d'artistes, rendez-vous sur Instagram @dolfiction, ça s'écrit D-O-O-L fiction. De mon côté, rendez-vous le 10 avril pour un prochain podcast. Si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est comme toujours de parler de vos épisodes préférés autour de vous et de m'envoyer des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes. Ici Anouk Perry et je vous embrasse.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.